Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonheur, Francis Gavel au micro. Après un premier album, Aimez-moi, chroniqué dans cette même émission en avril 2022, et qu'elle consacrait aux deux grandes figures féminines de la scène et du disque qui l'inspiraient, autrement dit, la vibrante Janis Joplin et l'envoûtante Barbara, Chloé Lang revient, pour le bonheur de l'amateur de chansons fourbu d'une si longue absence, avec un EP 6 titres intitulé « Ce que la nuit ». Et si le précédent opus avait permis de découvrir une interprète capable d'offrir, sans rougir de la comparaison avec ses artistes au firmament, des versions sensibles de Me and Bobby McGee ou du Mal de vivre, ce nouvel enregistrement permettra à chacun, chacune, de faire connaissance, au-delà de la chanteuse, avec l'autrice-compositrice. Car ici, en effet, sont présentées 6 chansons entièrement portées par la plume et les notes de Chloé Lang. Alors, certaines avisées feront remarquer que le dernier morceau de cette EP clôturait également le précédent disque, dont il était d'ailleurs l'unique composition originale. Mais on pourra aussi songer qu'ainsi se tisse d'un album à l'autre un lien entre deux musiciennes renommées, incontournables, et une autre musicienne en excellent devenir. Et puis entendre une nouvelle fois Chloé Lang, mutine à souhait, hurler, feuler, vocaliser sur tous les tons, du scat au doo-wop, son « Aimez-moi » ne peut qu'ébranler, et je pèse mes mots, les âmes et les corps. Mais au-delà de cette joyeuse explosion vocale, c'est peut-être un versant plus sombre que livre « Ce que la nuit », dont nous venons d'écouter en ouverture d'émission la chanson éponyme. Et peut-être ici se dessine-t-il le portrait d'une femme, heurtée, bousculée, voire blessée, qu'un amour maternel ou qu'une idylle amoureuse ne suffisent plus à rassurer sur la marche d'un monde devenu flou. Une femme cependant en quête d'elfes et de baleines, de prairies et de ciel bleu. De fait, une femme, et c'est ainsi que Chloé Lang lui prétend ses traits, l'a fait apparaître sur la photo de la pochette du disque, dont l'apparente tristesse masque pudiquement un beau soleil intérieur. Alors, le site de l'artiste, si vous voulez en savoir plus, eh bien c'est chloelang.com, Chloé Lang tout attaché, et attention, Chloé s'écrit K-L-O-E. Et puis on notera donc qu'elle sera en concert, alors c'est pas tout de suite, hein, c'est le 6 mars prochain à la Manufacture Chanson, dans le 11e à Paris. Et puis comme c'est notre album du mois, et ben en toute fin d'émission, on reviendra écouter un deuxième extrait de ce disque. Et tout de suite, je me tourne vers Thomas Fouet. Bonjour Thomas.
Bonjour Francis, merci à toi pour cette introduction musicale. Bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, pléthore d'auteurs confirmés, Jonathan Glazer, Quentin Dupieux, Todd Haynes, Bertrand Bonello et Cédric Kahn. Mais nous y reviendrons dans un instant. Autour du mois, une formation qui a fait ses preuves, le salade tomate-oignon de l'émission. J'ai nommé Francis Gavel, bien évidemment, qui, comme à son habitude, se joint à nous, ainsi que Clément Delechaux et Nicolas Marcadet, la rédaction des Fiches du cinéma, estimable revue qui, cette année, je vous le signale, devrait fêter ses 90 ans d'existence. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau.
Bonjour. Bonjour.
Nous sommes donc le samedi 27 janvier 2024. Arsenal est 3e de Première Ligue, Amiens 11e de Ligue 2 et Sochaux 4e de National. La montée est en vue, cher Clément. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, vous savez tout ce qu'il y a à savoir qui procure de la joie et de l'élévation, excepté pour les arts et lettres élargis aux activités mécaniques. Et justement, nous y venons avec le premier film au programme de cette table ronde critique.
Thank you.
périlleuse entreprise que celle consistant à représenter, quel que soit l'angle et le degré de frontalité choisi, les camps d'extermination et la destruction des Juifs d'Europe. Qu'est-il possible de montrer? Comment ne pas trahir la mémoire des victimes, ni céder à la spectacularisation des événements? Comment échapper à l'obscénité? En conséquence de quoi, chaque évocation de la Shoah se voit tenue à ses risques et périls d'inventer son propre régime de représentation, de reprendre à zéro le cinéma en somme et de s'interroger sur le sens, la pertinence et la valeur morale intrinsèque des images. Le nouveau long-métrage de Jonathan Glazer, auteur de deux des plus beaux films états-uniens de ces 15 dernières années, Birth et Under the Skin, et dont nous écoutions ici un extrait de la bande originale composée par Mika Levy, s'attelle ici à la tâche en usant d'autant de précautions que d'audace. Adapté d'un roman de Martin Amis, lui-même inspiré de la vie de Rudolf Höss, commandant des camps d'Auschwitz-Birkenau de 1940 à 1943, le film narre le quotidien du dit Höss et de sa famille, dans leur maison, jouxtant les camps. À l'affiche, Christian Friedel et Sandra Hüller, et ce sera en salle à compter du 31 janvier. Je précise enfin que le film était en compétition officielle au dernier Festival de Cannes. Vous avez tous les trois vu La Zone d'intérêt. Qui veut prendre la parole ? Je sais que c'est un petit peu raide en termes de programmation et en ouverture d'émission. Allez, Francis, j'ai envie de me tourner vers toi.
Eh bien, tourne-toi vers moi. Je me doute qu'on va revenir beaucoup sur... Alors, je mets des guillemets à plein de mots parce qu'avoir des précautions, mais sur le dispositif cinématographique de Glazer, en fait... moi, c'est plus la principale résonance que le film m'a provoquée. En fait, en voyant le film, j'ai pensé à un livre qui avait été publié au début des années 1990 d'un historien américain qui s'appelle Christopher Browning, je voulais pas dire de bêtises et écorcher son nom, et qui s'appelait Des hommes ordinaires. Et en fait, il s'était intéressé à un bataillon de réservistes de la police allemande qui était arrivé dans un village en Pologne en 1942 et qui avait abattu, dans le cadre de la solution finale, 1500 personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, et il leur donnait la parole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous étaient des adultes conscients de leurs actes à l'époque, et il leur donnait la parole, et ce qui émergeait, en fait, c'était de voir que, et je continue à mettre des guillemets au mot, que ces hommes avaient en fait profité pour commettre leurs exactions d'un contexte, nouveau guillemets, favorable. C'est-à-dire le contexte de guerre où d'un seul coup, la notion d'humanité, le sens moral peuvent être renversés. Et j'ai un peu l'impression ici que Jonathan Glazer fait un petit peu la même chose dans la manière dont il montre Höss, sa femme et sa famille, en montrant finalement des hommes ordinaires. Et évidemment, c'est bien dommage, parce qu'on peut plus du coup les appeler monstres, ce qui rassure généralement la société, parce que on voit que du coup, ils n'ont rien qui les sorte de extraordinaire, et que tout un chacun, on peut verser là-dedans si le contexte historique, éthique, stratégique est favorable. Et je trouve que Glazer montre un petit peu ça dans le film, en finalement s'intéressant à cette famille qui serait une famille comme une autre, c'est-à-dire pour la mère s'occuper de l'éducation des enfants, de la bonne marche de la maison, et pour le père finalement gravir les échelons dans la hiérarchie sociale, alors ici une hiérarchie spécifique, mais où on est commandant d'un camp, alors le plus prestigieux, pareil, toujours des guillemets, Auschwitz, et puis on va devenir en fait superviseur de la mise en œuvre et de la bonne marche de la solution finale. Et finalement, c'est peut-être l'expérience la plus troublante, à mon sens, par rapport au film de Glazer, parce que c'est dire, c'est pour chaque spectateur, chaque spectatrice, c'est le questionner lui-même sur l'endroit, jusqu'où on est prêt à aller et jusqu'où on accepte d'aller quand le contexte et la société qui nous fait exister changent. Et peut-être que c'est des questionnements en plus qui, ne serait-ce que par rapport à la société française contemporaine, peuvent être très prégnants. Voilà, donc ça c'est effectivement, moi, la première réaction, le premier questionnement que me pose le film. Et alors ensuite, sur un plan peut-être un petit peu plus cinématographique...
Oui, parce qu'effectivement, je n'ai rien dit du dispositif qui est quand même particulièrement...
voilà, et moi non plus, en fait, c'est vrai que j'en dis pas grand-chose, là, en disant ça, puisque je m'extrais un petit peu de la partie cinématographique du film. Mais après, si je prends une partie cinématographique, c'est plus pour voir avec... ce qui m'a marqué, c'est de voir que le film de Jonathan Glazer résonne avec d'autres films qui ont eu pour terreau l'abjection ou l'aliénation, pardon, difficile à dire, je m'en excuse. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher, parfois c'est sur des détails en fait que ces choses-là arrivent, on ne peut pas s'empêcher de penser à Salo de Pasolini, et au-delà même des exactions qui, alors, dans Salo sont incroyablement montrées, c'est, j'ai toujours cette image dans Salo d'une femme qui est une musicienne qui assiste à toutes les exactions des fascistes italiens et qui, à la toute fin du film, dans un sursaut de dignité, au moment où tout le monde va repartir, elle se jette par la fenêtre dans sa chambre, donc se suicide. Et ici, je trouve qu'il y a un personnage secondaire qui est un petit peu, alors je dévoilerai pas trop de choses, mais qui est un petit peu dans la même démarche, qui vient rendre visite à sa famille, et qui, après une nuit où elle n'arrive pas à trouver le sommeil à proximité du camp et des cris des suppliciés, part sur la pointe des pieds, sans rien dire, comme si d'un seul coup, elle-même, c'est le seul moment où peut-être on a un personnage qui prend conscience de quelque chose. Et puis l'autre film, qui là, je fais pas un rapprochement entre les deux personnages, attention, mais l'autre film, en fait, c'est Jeanne Dielman, de Chantal Akerman. Et pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a, alors là, plus sur l'aliénation du personnage incarné par Delphine Seyrig, mais parce qu'il y a une espèce de mécanique identique entre Jeanne Dielman et Rudolf Hoss dans cette manière d'ouvrir et de fermer des portes, d'allumer et d'éteindre des lumières tout au long d'un appartement dans Jeanne Dielman, des différents étages de ce pavillon si serein. Et évidemment, il n'y a pas un rapprochement, parce que d'un côté, on est face à un personnage, Jeanne Dielman, qui est elle-même hantée par le souvenir de la Shoah et qui est en premier lieu une victime, quelqu'un qui s'est muré dans son corps, et c'est ce que le film va révéler, c'est que quand elle sort de cet emmurement, d'un seul coup, c'est trop fort pour elle. Et puis de l'autre côté, face à un homme qui, lui, a complètement intégré l'idée de la solution finale et qui en est un rouage efficace et complètement convaincu. Donc voilà un petit peu pour parler du film de Jonathan Glazer et donner quelques impressions par rapport à ce que j'ai pu ressentir et comment j'ai pu sortir de cette projection quand même assez difficile.
Je vois que Nicolas s'est relevé sur sa chaise et a amorcé un mouvement vers le micro. Dois-je déceler le signe d'une vicissitude de prise de parole?
Éventuellement. Je suis d'accord vraiment avec tout ce que tu dis et je l'ai vu, j'ai vu le film, je pense, à peu près pareil que toi. À cette différence que moi, ça me crée un grand enthousiasme. Que là, j'ai l'impression que tu étais très...
très perturbé à la sortie du film, j'avoue.
Moi, j'ai trouvé que c'était un film fabuleux. Vraiment auquel j'ai énormément repensé, etc. Et pour ces raisons-là, hein, parce que pour la manière dont il est... dont il fait un film sur le contemporain, beaucoup plus qu'un film d'histoire... Et je trouve que c'est un film impressionnant sur la question de la distance, sur le dispositif est fait là-dessus, ce qu'on montre, ce qu'on montre pas, à quelle distance on se met du camp, etc. Bon, ça pourrait être un peu scolaire, et je trouve qu'il le fait avec une grande virtuosité, la manière dont il amène progressivement le camp dans les plans, etc. Bon. Mais c'est aussi un rapport entre le film concept et quelque chose qui serait plus que ça, quoi. Je trouve que moi, c'est ce qui m'a beaucoup surpris en le découvrant, c'est que je m'attendais à un truc extrêmement glacial, extrêmement entomologiste et extrêmement monolithique par rapport à son dispositif, ce qui était le cas pour moi de Under the Skin, que je trouve pas mal, mais qui au bout d'un moment, pour moi, était très ennuyeux parce que toujours sur la même ligne, toujours à distance, toujours à dérouler son concept. Là, je trouve qu'il tombe pas dans ce piège-là et que c'est pas un dispositif, c'est réellement de la mise en scène. C'est-à-dire que il construit quelque chose pour produire des effets et les effets arrivent. Et il t'amène vers des idées et vers des sensations et vers voire des émotions. Et je trouve que ça, c'est quand même assez fort, et que il joue aussi cette distance par rapport au personnage dont tu parlais. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est pas des monstres, En même temps, c'est pas des insectes. Et en même temps, c'est pas non plus regardé comme ils sont normaux. C'est-à-dire que je trouve la grande force du film, c'est d'être d'utiliser ni de pas du tout utiliser ni la psychologie ni la morale. Et c'est juste, il ne dit pas regardez comme ils sont dégueulasses. Il ne dit pas regardez comme en fait ils aiment leurs gosses et ils sont gentils, etc. C'est juste des gens. Et face auxquels il y a une possibilité, si ce n'est d'identification, en tout cas de superposition d'images du quotidien, de choses qu'on connaît, etc. Et je trouve qu'il y a des scènes assez éblouissante de ce point de vue-là. Il y a un moment où le personnage va être transféré. Enfin, il doit quitter le camp et donc il annonce ça à sa femme. Et il y a une scène de discussion, de dispute un peu entre sa femme et lui. La femme veut rester, lui doit partir. Et c'est une scène qui est exactement à la bonne distance pour que ça puisse être exactement comme si le mec était employé de France Télécom et qu'il devait changer de boutique. Et c'est à ce moment-là, ils sont ni rendus sympathiques, ni, ils sont toujours dans leur monstruosité, mais ils sont extrêmement normaux, extrêmement dans une réalité qu'on pourrait connaître, quoi. Moi je trouve qu'il y a une force de superposition. Mais
alors Clément, effectivement, on avait vu le film à Cannes, ouais. Nicolas, toi et moi, et je crois me souvenir qu'effectivement tu étais un petit peu moins enthousiaste. Non, toi, Nicolas, tu l'as rattrapé depuis, après, tu l'as vu depuis. Mais nous, moi, avec Clément, on l'avait vu à Cannes et tu avais quelques réserves.
En fait, je trouve que le film est fabuleux parce que ce qui m'a déplu se pose exclusivement sur un rapport esthétique et pas éthique. Je suis complètement d'accord avec Francis et Nicolas. C'est brillant parce que, quand malgré tout, parce que c'est exclusivement une représentation des camps qui est possible au cinéma. C'est-à-dire que c'est véritablement un film. C'est pas un dispositif, c'est pas une installation muséale, c'est exactement le rapport optique qu'on peut avoir avec le cinéma, avec le premier et le second plan, avec ce qui bouge au premier plan et ce qui bouge un peu de façon diffuse au second plan. Et de fait, le film réussit, pour moi en tout cas, à évacuer toute question d'éthique qui pourrait de toute façon faire obstruction au discours critique qu'on aurait dessus en disant c'est bien, c'est moral, c'est pas moral, travelling de capot.
Mais si je peux me permettre, ça n'est pas sa finalité, ce qui était le cas, à mon avis, dans Le Fils de Saul, qui a été finalement beaucoup mieux reçu que ce film, et qui est vraiment un exercice extra,
parce qu'il
très
été
scolaire,
adoubé,
très premier de la classe.
Parce qu'il a été adoubé aussi par Claude Lanzmann, qui à l'époque faisait autorité sur...
Non, mais c'est justement, le film n'avait d'intérêt que de ça, c'était le premier de la classe qui dit « Professeur Langmann, j'ai réussi le théorème ». C'est horrible.
Non, c'est justement... C'est vrai qu'il y a un travail de mise en scène qui dépasse toute éventualité de dispositif et qui est une représentation exclusive au cinéma. Donc déjà, il y a cinéma. Ce que moi, je trouve peut-être un peu moins intéressant, c'est que là où la disposition des caméras au début du film, donc dans une forme d'éther où on se demande à la fois ce qui représente le paradis d'une famille allemande typique qui finalement réussit par la figure paternelle à gravir les échelons d'une époque, c'est-à-dire quelle que soit l'époque. Là, en l'occurrence, c'est une époque de guerre, donc les personnages sont pris dans un peu les remuements du temps et donc de la guerre. Ça, c'est assez brillant, la longue transition vers le cauchemar. Plus le cauchemar s'épaissit, plus l'arrière-plan arrive quand même sur le devant de la scène, plus les scènes mélodramatiques qui apparaissent effectivement au cœur de la famille me semblent justement un peu plus essayer de rejouer un peu un système de vase communicant quand même entre ce qui relèverait de la mise en scène de l'horreur extérieure et ce qui relève d'une forme de mise en scène de l'horreur intime domestique. Et typiquement, bon, je vais pas dévoiler la fin revient sur un rapport au contemporain stricto sensu qui à mon avis, fait un peu obstruction à la beauté cachée dans l'horreur du film au début, en explicitant véritablement ce qui est attendu du spectateur. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
Parlerez-vous à en parler sans en dévoiler la nature?
Moi, ça me paraît pas très grave d'en dévoiler la nature. Non. Je veux dire, il y a quand même pas un énorme suspense. Enfin,
effectivement, il y a un basculement dans le contemporain à la fin, un bref basculement, une sorte de parenthèse.
Oui, le devenir musée, musée de la représentation historique,
qu'on attend. C'est-à-dire, je trouve que tout le film, on se dit à quel moment il va confronter quand même ses personnages à la réalité de l'horreur, etc. Enfin, moi, j'imaginais pas trop que le film parte comme ça sans en passer par là.
Et à la postérité historique de leurs actes.
Alors voilà,
le jugement que l'histoire va porter sur...
Moi, je trouve ça assez surprenant. Il passe par le fait de montrer ces images, de mettre en face à face le personnage. Et voilà, il est dans une réunion, il sort, il est un peu malade et il est pris de hockey. Là, il est dans un couloir et il y a une espèce de contre-champ. Qui montre le musée d'Auschwitz, quoi, avec des gens qui sont en train de le nettoyer. Ce qui est déjà une bonne idée, je trouve, de cinéma, une idée graphique, c'est-à-dire qu'il est dans la continuité de ce qu'on a vu jusque-là, où on a vu sans arrêt une maison avec des gens qui passent le balai, qui nettoient les meubles, etc. Donc il continue.
Et la notion ambiguë de nettoyage qui est évidemment présente.
Oui. et après, je trouve que ne montrer ça, c'est encore une fois ne pas en passer par la morale. C'est-à-dire, il ne met pas le personnage la tête dans sa merde en disant « Regarde, comme c'est, quelle horreur ce que t'as fait !» Il ne met pas les images des camps, des fours qu'on ouvre, etc.
Il y a quand même une prise de remords. La crise de vomissement du personnage, ça reste une forme de remords.
Ouais, mais là, il le met face...
C'est une manifestation physique, mais qui n'est pas conscientisée, on le comprend.
Mais il le met face à quelque chose qui n'est pas l'horreur de ce qui s'est passé, qui est le poids que ça a pris dans l'histoire. Et je trouve que c'est vachement intelligent, parce que c'est de ça dont parle le film. C'est c'est que ce petit bonhomme qui est un petit soldat très zélé et actif d'un système qui crée une atmosphère de normalité autour de choses qui devraient pas du tout être normales si un peu d'éthique et de bon sens, tout d'un coup se retrouve face au tribunal de l'histoire. C'est-à-dire, il se trouve responsable de ça. Il est pas, il est, voilà, c'est cet effet de perspective, cette espèce, il met en scène cette espèce de démesure entre ces petits bonhommes qui sont en train de faire leur truc dans leur coin. À un moment, si la société change, se retrouve seul comme des cons, responsable d'un truc qui est un tabou absolu, une horreur absolue, etc. Et voilà, moi je trouve que ça montre très bien ça. C'est, si le système change, t'es à poil face à ça. Je trouve que c'est comparer des choses qui sont pas comparables, mais les gens qui ont été l'entourage de Depardieu aujourd'hui doivent se sentir dans une ambiance un peu comme ça, de se dire quand même c'était normal, c'était pas grave, et se trouve jugé par une société autre, par
Je sais pas, moi c'est je suis d'accord sur l'idée, simplement j'étais tellement content pendant toute la première moitié du film de voir enfin ce que pourrait être une vraie bonne version ce qu'on dit parfois, je comprends pas. Quand on voit ce film-là, c'est impossible de défendre ne serait-ce qu'une seconde du cinéma de Laurie Seidel, par exemple. C'est-à-dire que sur ces...
C'est-à-dire plus soi.
D'éviter si facilement, comme dit Nicolas, le regard d'entomologiste, moi, cette fin, ce dispositif, qui commence déjà à la crise de vomissement, qui ont, effectivement, on devine un rapport physique qui est ressenti au premier degré par le personnage, mais qui est voué à l'extension du jugement de l'histoire, devoir revenir sur ce devenir musée qui, pour moi, reste quand même, je trouve, à la surface des choses par rapport à ce qui avait été développé pendant tout le film, me fait comprendre, voilà, vraiment la vie personnelle, que Glazer a complètement compris exactement ce qu'il fallait faire pour dépasser le dispositif, mais qu'il a quand même été rattrapé par une forme de peur qu'on comprenne pas exactement ce qu'il voulait faire par la mise en scène et revenir sur quelque chose de plus documentariste qui, moi, me parle moins. Mais
Messieurs, merci, c'était passionnant. La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, c'est donc en salle à compter de mercredi prochain. Dans un registre un peu plus léger, à présent, quelques mois après le procès Goldman qui concourt, je vous le rappelle, pour pas moins de 8 Césars, dont celui du meilleur film, réponse fin février, Cédric Kahn est déjà de retour avec un nouveau film intitulé « Making of ». Le sujet en quelques mots. Simon tourne son nouveau film, la reconstitution d'un conflit social dans une usine tournée avec de vrais ouvriers et un acteur vedette, Jim. Alors qu'il déjeune avec Viviane, sa directrice de production, Joseph, un figurant, vient lui remettre le scénario qu'il a écrit. Mais bientôt, la situation s'envenime avec ses producteurs qui décident de le lâcher. Nicolas, tu as vu le film sur lequel tu as écrit dans les fiches du cinéma. Je te cite. Les films de Cédric Kahn, et c'est souvent leur force, fonctionne d'ordinaire sur un entêtement obsessionnel à fouiller dans une seule direction, un seul sujet, pour en faire sauter la surface et forer jusqu'au bassin de folie qui l'irrigue souterrainement. Ici, en s'éparpillant entre diverses pistes et approches, notamment la comédie, qui n'est qu'un moment du film, mais pas vraiment sa tonalité générale, il est moins à sa main. À l'affiche, Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Stéphane Crépon, Souheila Yacoub et Emmanuel Berco, entre autres, et c'est d'ores et déjà en salle. Nicolas, j'ai envie de me tourner vers toi. Écoute,
je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Hein.
Ça y est,
mais c'est-à-dire que le Cédric Kahn a dit que donc c'est un film qui est construit sur la réunion de trois projets avortés. Donc, qui serait le film social sur une usine en autogestion qui devient le film dans le film ici. Il voulait faire un film sur un réalisateur en burn-out. Donc ça aussi, ça pourrait être très bon sujet. Cédric Kahn, qui est un spécialiste du film de pétage de plomb. Et il voulait faire un vrai making-of sur un film de quelqu'un d'autre.
Allez, perdu sur les trois tableaux.
Et voilà, là, il voulait faire
Il y a même quelque chose de Moretien dans cet amalgame, oui. qui pourrait conduire à un projet Moretien, type Mia Madre.
Ça dépend de son degré de pudeur.
Forcément, à Mia Madre.
Ça dépend de son degré de pudeur, mais ça passe de l'hommage au plagiat sur certains moments, quand même.
Mais voilà, enfin, je sais pas, ça peut des fois être une bonne idée de mélanger des trucs comme ça. Là, je trouve que les choses interfèrent très mal les unes sur les autres. Enfin, se parasitent les unes les autres. Ce qui fait qu'il y a un réel problème de sujet. Je trouve que déjà, d'apprendre que le film, ce projet de film en usine est un projet qu'il a eu, donc qu'il prend au sérieux, c'est déjà une surprise. Parce que dans le film, on ne peut le voir que comme une parodie de film de Stéphane Brisé. C'est-à-dire que là, parce que c'est donc un film avec dans une usine, avec les vrais ouvriers et avec au milieu de ça un acteur vedette. Donc on ne peut, et comme il y a un peu un climat de comédie et que le personnage de l'acteur est joué par Jonathan Cohen, on ne peut pas prendre cette partie-là au sérieux.
Et si on reprend la même idée chez Moretti, voilà. C'est toujours évidemment conçu comme une parodie et comme montrer que c'est l'incapacité de Moretti à faire ces films-là.
Exactement. Et c'est-à-dire que là, il y a une mise en perspective avec l'idée, l'équipe de cinéma, c'est aussi un petit collectif où il y a de la politique, des agents de pouvoir, des machins, etc. Mais ça ne va pas plus loin. Effectivement, dans Moretti, le film avec Torturo dans Mia Madre, ça montrait aussi que la politique était devenue une espèce de mascarade, qu'on pouvait plus la filmer comme ça, etc. Là, ce film dans le film, pour moi, il est regardé par personne. Le personnage du réalisateur n'est pas suffisamment présent. Bon. Que dire encore? Non, je trouve qu'après, la partie, le cinéma et l'argent, etc., pourrait être vachement intéressant. Ça reste secondaire, ça reste assez secondaire parce que, notamment parce qu'il fait monter quand même au premier plan ce personnage d'apprenti cinéaste qui veut quitter sa province, qui rencontre une nana, etc. Alors ça, c'est le personnage ajouté à la faveur de la réunion de ces trois projets. Et c'est, à mon avis, la mauvaise idée. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc très gnangnan, qui occupe une place beaucoup trop grande dans ce machin, et qui empêche de développer tout le reste. Bon, voilà. Je vais le défendre.
D'accord.
Je me tourne vers Francis, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment maintenant.
Oh, quand même.
Tu pourras réagir, Clément.
Alors, je vais peut-être le prendre par un autre bout, en fait, le film, là, après tout ce qu'a dit, Nicolas. Alors, d'abord, quand je l'ai vu, dans un premier temps, j'ai eu comme ça une espèce de résonance avec le procès Goldman, où dans le procès Goldman, on est dans une rhétorique, dans une pensée articulée, le procès, la politique. Et là, d'un seul coup, on est dans une dialectique un peu plus spontanée, qui est très sur l'émotion. Donc on peut dire qu'il y a une espèce de prolongement, même si, alors après, j'ai appris, je crois que ce film-là, il a été tourné avant le procès Goldman, enfin, donc... Dit de bêtises. Donc, mais c'est amusant quand on découvre les films l'un après l'autre, de voir qu'ils peuvent avoir ce lien. Alors après, ça m'a fait penser à quelque chose. Là, je vais raconter ma vie parce qu'elle est tellement passionnante. Je m'étais toujours dit que si je faisais des études universitaires, il faudrait étudier dans le l'évolution du regard du cinéma français sur lui-même à travers trois films et voir comment on passait de cet endroit véritablement merveilleux, même si avec des conflits évoqués par Truffaut dans La Nuit américaine, à des ambiances de tournage qui sans cesse se dégradent, et en le faisant avec trois films où il y a une figure mythique dedans du cinéma français qui est Jean-Pierre Léo. Et je me disais, il faudrait le faire avec donc La Nuit américaine de Truffaut, et puis d'un seul coup deux autres films où il passe du statut d'acteur à celui de réalisateur, qui serait Irma Webb d'Olivier Assayas, puis Le Pornographe de Bertrand Bonello. Et là, finalement, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça en voyant le film de Cédric Kahn, me dire que c'était encore un prolongement de cette espèce de fil qui est tiré depuis longtemps du regard du cinéma français sur lui-même qui se désagrège chaque fois un peu plus. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... alors, pas de délicatesse, parce que Cédric Kahn est quelqu'un qui rentre dedans, mais une espèce de précaution qui est prise, j'ai envie de dire, dans la manière dont t'es brossé toute la hiérarchie cinématographique. Et là, effectivement, le parallèle avec le film social dedans, bah, ce parallèle est peut-être plus important, en fait, dans le côté film social du monde du cinéma sur lui-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le film fait attention à tous les personnages, quitte parfois à avoir un souci.
Je peux me permettre, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je trouve que c'est un des problèmes du film, c'est-à-dire que c'est de ne pas choisir s'il y a des héros ou s'il n'y a pas des héros. Parce que dans La Nuit américaine, par exemple, la grande réussite de La Nuit américaine, c'est de réussir à faire un personnage sans héros. Il n'y a aucun personnage principal. Le personnage principal, c'est l'équipe. Tout le monde a à peu près un temps égal. Là, clairement, il y a le réalisateur, Jonathan Cohen, et éventuellement la directrice de prod, sont quand même, et surtout le petit mec, ouais, sont largement au-dessus, et sont largement au-dessus en termes d'occupation d'espace, et l'équipe fait, c'est un peu, on dit, il y a le petit moment où vous voyez, on a montré l'électro, on a montré le machin, mais ils n'existent pas en tant qu'équipe.
Oui, mais moi justement, c'est ce que j'appelle la précaution du film. C'est de dire, je vais quand même, il y a des personnages principaux, d'abord parce qu'il y a des acteurs principaux, des acteurs qui sont plus de premier plan, mais je vais montrer quand même un petit peu tout le monde. Au risque de la caricature que j'assume, puisque c'est le côté comédie du film, et donc je vais avoir le machino prolo comme la star sous en fait, même si la star sous en fait a plus de place. Mais il y a cette espèce de précaution qui me paraît presque une précaution, une prévention par rapport aux professionnels de la profession qui vont accueillir le film, sûrement en ayant un rire effectivement caustique sur eux-mêmes, mais qu'on ménage quand même. Moi, je pense que c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
Un film d'entreprise, quoi.
Presque, si tu veux. Et après, je me dis que le film est très auto-centré sur le milieu. Et quel est l'endroit où il va pouvoir aller à la rencontre d'un grand public, sachant qu'il montre que, de toute façon, le côté merveilleux du monde du cinéma, finalement, il n'existe plus vraiment. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie, peut-être vous comme moi, et puis d'autres gens, d'être encore dans ce milieu qui nous tient, tout en nous agaçant. Et que le film, jamais, peut-être, donne une porte pour ça, puisqu'on a l'impression que c'est une lutte de tous les instants, ce qui n'est pas faux, pour faire son trou. Et donc, en quoi je vais aller vers le spectateur avec une vision aussi catastrophique, j'ai envie de dire.
Clément, est-ce que tu veux ajouter un dernier mot ?
Oui, je dirais que je trouve que le film, il est... Le souci du film, c'est qu'il est doublement aveugle et qu'il y a un manque de représentation et un manque de vision à la fois cinématographique et politique. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais... Donc, il y a un film dans le film qui est une usine en autogestion. On ne voit jamais le personnage de, du réalisateur, joué par Podalides, dirigeait les acteurs. Donc, de fait, et c'est, on revient sur la notion de parodie prise très bizarrement au premier degré, dans, même dans l'économie du film, celui qui dirige les acteurs dans le film, c'est Cédric Kahn, puisque le personnage de Podalides, on ne les voit jamais vraiment diriger les acteurs. Dès le début, il est démissionnaire. Donc, cette double absence de point de vue, puisqu'on ne voit pas le réalisateur du film filmé, le réalisateur du film, donc pas le réalisateur du film dans le film, mais Cédric Kahn filme une parodie absolue de cinéma politique, c'est-à-dire ce qu'on disait, exactement ce que Moretti dans Mia Madre montre comme étant un cinéma complètement dépassé, qui n'est plus du tout au courant de ce que peut être vraiment la représentation politique d'une lutte et surtout d'une équipe qui se bat dans le cinéma. Comme il y a dès le début aucun point de vue politique, à la fin, les difficultés inhérentes à la production de films passent du « on s'est bien battu, mais on a fait un petit film » à on est des escrocs, en fait. On est des escrocs, on a réussi à faire un film dès le début complètement branlant, sans aucun point de vue politique. On a réussi à faire croire à tout le monde qu'on avait réalisé quelque chose de grand. Ça pourrait fonctionner si, dès le début, le film jouait sur cette ambivalence, sur ce côté, je sais très bien qu'on a, le personnage de Polyès sait très bien que, en tant que bourgeois, comme on veut, il est en train d'instrumentaliser un récit politique. Comme ni la partie comique, ni la partie politique ne fonctionnent, ben c'est vrai qu'on a l'impression de voir trois récits pas finis, qui accouchent d'un personnage qui nécessairement est censé faire le lien entre eux, et qui donc donne un récit sans squelette. C'est juste des petits organes qui fonctionnent entre eux, avec en plus ce qui fonctionne a déjà été vu ailleurs. Le personnage de Xavier Beauvois qui joue le producteur, on en parlait, c'est vrai que bon, on n'a pas l'impression qu'il ait beaucoup travaillé. C'est pas trop acteur studio, quoi. C'est-à-dire qu'il est venu lui-même sur le plateau. Il joue lui-même, et puis ça fait rire tout le monde. Mais il y a un vrai point aveugle, ce qui est quand même dommage, puisque le procès Goldman avait la force d'être tellement resserré que la partie politique était vraiment hyper saillante, quoi. C'est-à-dire que jusqu'au format, t'étais embarqué, t'étais vraiment dans le bain d'un projet. Là, on dirait à la fois un film de commande, un film d'entreprise, et surtout rien communique vraiment entre ces parties.
Merci, messieurs, Making of de Cédric Kahn. C'est donc à découvrir d'ores et déjà en salle depuis le 10 janvier. Et je vous propose à présent que nous fassions une première pause musicale, et on se retrouve dans quelques instants.
Thank you.
De retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous écoutez longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Fou au micro en compagnie de Francis Gavel et de la rédaction des Fiches du Cinéma pour cette table ronde consacrée à l'actualité des sorties en salle. À l'instant, nous écoutions Nuclear War du revenant Ryan Adams. Un morceau tiré de l'un des trois nouveaux albums studio publiés simultanément par celui-ci début janvier. Ça s'appelle Sword and Stone. Et nous poursuivons notre tour d'horizon des sorties en salle avec May December. C'est le nouveau film de Todd Haynes, auteur notamment de Loin du Paradis et Carol. Le sujet en quelques mots, actrice renommée Elizabeth prépare le rôle de Gracie dans un film qui retrace l'histoire scandaleuse de celle-ci. La jeune femme se rend donc chez celle-ci, qui vit avec son époux Joe et Gracie, leur fille, qui par ailleurs a un frère jumeau, Charlie, et une sœur aînée, Honor. Le scandale, quel est-il ? Gracie a autrefois quitté son mari pour Joe, encore mineur à l'époque. Florent Boutet, faut-il le croire ? Vous me le direz dans un instant. Nous dit dans les Fiches du Cinéma la chose suivante. Le projet de mise en scène de Haynes est parfaitement maîtrisé au service d'un film qui donne le tournis tant il pousse loin l'analyse d'une relation toxique et déséquilibrée. À l'affiche, Natalie Portman, Julianne Moore et Charles Melton. Et c'est d'ores et déjà en salle. J'ajoute que le film était présenté l'an passé en compétition officielle au Festival de Cannes. J'ai envie de donner la parole à Clément.
Oui. Alors moi c'était mon premier Todd Haynes, donc ben oui, c'est pour ça aussi. Donc ma parole est forcément neuve, vierge de tout soupçon.
C'est nul.
Non, ben j'ai bien aimé. Voilà, c'est tout. Nicolas. Non, parce que alors moi au contraire je trouve ça absolument pas toxique. Et c'est presque ce que j'ai aimé, c'est que il y a une forme de torpeur sympathique qui est liée au climat aussi, parce qu'on voit que c'est tourné en Floride dès le début. Il y a les saules pleureurs, il fait beau, tout le monde a une maison immense. Et peut-être, je suis pas un expert, je sais que tout le monde dit que c'est qu'il y a des formes de vapeur camp dans la mise en scène. J'en sais rien. Simplement de prendre à bras le corps, mais avec une grande distance, un fait divers qui existe aux États-Unis. Une institutrice qui a eu une longue relation avec un élève de 13 ans qui a fait de la prison pour ça, et qui finalement ils sont restés ensemble. Et d'ailleurs, ils ont divorcé après 16 ans, mais comme un couple normal. D'utiliser ce fait divers et d'en faire un tout petit événement à l'échelle d'une énorme machinerie hollywoodienne qui serait en fait le règne du faux. Parce que le personnage de Natalie Portman, qui joue une actrice qui est censée s'immerger dans l'acteur studio à fond, singer jusqu'au tic de langage, le personnage joué par Julianne Moore, qui est donc...
Ce qu'elle va faire avec beaucoup d'engagement.
C'est ça. Donc de singer un personnage réel pour essayer d'en extirper toute la puissance, toute la pseudo-puissance tragique, antique, toute la douleur du destin, se heurte en fait à régulièrement des petits systèmes de miroirs, des petits dérèglements du phénomène d'emprise entre cette femme et le très jeune homme avec lequel elle vit, et entre cette femme et celle qui doit incarner son modèle télévisé. Tout passe un peu, tout forme une forme de tout petit triangle un peu mou, où chacun exerce doucement sa fascination l'un sur l'autre, sans qu'à la fin il y ait énormément, non seulement il y ait énormément de répercussions. Je trouvais ça assez agréable, un film qui a l'air d'être une machination presque, c'est quasiment le silence des agneaux sans aucun serial killer, quoi. À la fin, tu te dis, oh non, mon Dieu, il s'est passé un tout petit dérèglement qui en fait ne va rien changer à la face du monde, et que c'est filmé avec une grandiloquence, avec une certaine grandiloquence. Je trouvais ça assez reposant et surtout, ce que j'ai trouvé assez brillant, c'est toute l'inconséquence du vampirisme au cinéma, quoi. C'est-à-dire, sans, encore une fois, bon, je suis désolé, je parle de la fin des films, mais bon, on est censé quand même un peu discuter. On se rend compte que tout ce phénomène de vampirisation, tout ce système d'acteurs qui a une spécificité américaine, c'est-à-dire qu'on ne demande jamais à un acteur, on ne demanderait jamais à un acteur français d'aller vivre une semaine avec une personne dans le fin fond de la Floride pour essayer de s'imprégner d'à peu près une forme de behaviorisme, de se dire, bah, si on vit là, si je prends tel café, si je prends tel café dans tel bar du centre-ville, est-ce que je vais devenir cette personne qui va coucher avec un de ses élèves? Mais en fait, tout cela, c'est absolument le règne du superficiel. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui marche dans le film, parce que Natalie Portman est censée jouer cette actrice, c'est rien d'autre. c'est le vernis de la série B. C'est on regarde exclusivement que les manchettes de presse et que c'est exactement ce qu'elle voulait éviter. Donc, dans ce petit règne du faux, dans la monstration de ce que c'est que ce miroir aux alouettes de vouloir exactement se fondre dans le personnage, il y a un regard sur le cinéma qui fonctionne et qui, par rapport à ce que j'ai l'impression de connaître de Todd Haynes, forme quand même une vraie lignée avec son cinéma, quoi.
Il y a effectivement quelque chose de cohérent avec son cinéma. Nicolas, tu as vu May December?
Oui, j'ai vu, c'est un bien grand mot, visiblement, parce que... c'est possible que ça soit un film sur lequel je change d'avis. Après, je ne l'ai peut-être pas bien pris. Alors, je suis d'accord avec ce qu'a dit Clément. Après, moi, ça a fait que je me suis un peu emmerdé, quoi, en fait. Je crois que je l'ai pris un peu bêtement, un peu premier degré, un peu, c'est-à-dire en me laissant porté par le côté, là il y a la musique de Faites entrer l'accusé, là qui est la musique du messager. Mais voilà, qui institue un espèce de suspense permanent. Il y a ce côté persona, machin, ambigu. Bon, qui laisse quand même attendre quelque chose d'un peu intense en termes de relations ou de révélations, de retournements, de perversions, de machin.
Mais c'est pas vénéneux, c'est pas du tout.
J'ai trouvé que c'était un film très classe, quoi, un peu trop classe hein, tout le temps, un peu en surface des choses, un peu chic. Pas désagréable, mais qui va pas, qui finalement est dans un espèce de survol. Je trouve que effectivement, il est sur deux choses qui peuvent être un peu vertigineuses. À la fois le point de vue de l'actrice, cette espèce de où est la limite, de nouer une relation avec quelqu'un que t'es en train d'imiter, etc. Et puis l'autre sujet à côté, c'est quand même c'est le personnage du garçon, qui donc a été avec cette femme depuis l'âge de 12 ans. Le truc assez surprenant, c'est de découvrir qu'ils sont ensemble, qu'ils ont des gosses, etc. Mais que lui se demande un peu s'il a exactement fait ce qu'il voulait de sa vie, quoi. Si c'était ça son projet, il est resté... peut-être par amour, mais en tout cas par fidélité, par droiture morale, etc. Bon, donc ça, c'est aussi un personnage vachement intéressant. C'est un peu comme dans le Cédric Kahn, dans quelle mesure ces deux sujets arrivent à se mixer, arrivent à ne pas se parasiter. Mais
je crois que c'est justement l'idée de montrer le caractère hermétique. D'un fait divers qui évidemment engage des personnalités et de sa représentation à l'écran, avec la mise en abîme d'un film qui montre une actrice en train d'essayer de jouer une autre actrice qui joue quelqu'un qui a vraiment vécu ça, quoi. Tu vois, un peu des récits au cube, au carré, qui à la fin forment une série B basique sur une vamp, qui est le film.
Mais là, pour le coup, je sais pas, j'ai trouvé moi, presque le film n'était pas assez concept, alors du coup pas assez de manière voyante, pas aussi conceptuel que peuvent l'être d'autres films de Todd Haynes, comme le film sur Dylan, etc. Bon. Mais voilà, j'exclus pas d'être passé à côté du truc.
May December de Todd Haynes, c'est donc d'ores et déjà en salle. Nous en venons au film suivant de notre table ronde. Après avoir signé avec Yannick l'un de ses plus beaux films, cela n'engage que moi, Quentin Dupieux s'attaque ici à ce qui rétrospectivement pourra sembler être une évidence, le risque avec Dali, l'ai-je bien prononcé, serait même celui du ton sur ton, que l'auteur, en s'attaquant à un maître du surréalisme, ne fasse qu'illustrer platement ce qui a toujours été l'un des creusets de son cinéma, à savoir un sens de la mise en scène des mouvements de l'inconscient hérité précisément. Et notamment du surréalisme, car le film s'envisage donc comme une fantaisie autour de Salvador Dali. Pour feinter le biopic convenu, allez donc chercher ici la plus petite anecdote factuelle sur la vie de l'artiste. Dupuis a choisi de faire interpréter Dali par rien moins que 6 acteurs, parmi lesquels, 5, j'en ai peut-être ajouté un, mentalement, parmi lesquels Edouard Baird, 6, le compte était bon, parmi lesquels Edouard Baird et Jonathan Cohen, et plus en retrait, Gilles Lelouch, Pio Marmaille et Didier Sandre. Chacun imite hein, ici grossièrement Dali, son accent, ses exclamations, le personnage qu'à force de formules absconses il s'était créé, mais cette grossièreté sert le projet, car c'est à une exagération, et par là même un dépassement de l'image publique de Dali que procède ici Dupieux. Tout le monde cabotine, mais ce cabotinage, avec ce qu'il peut avoir de ridicule et d'enfantin, est l'expression la plus fidèle de ce que pouvait être Dali. Un amusement érigé en œuvre d'art, cela suffit-il néanmoins à faire un film? Le film était présenté hors compétition à la dernière Mostra de Venise, il est à découvrir en salle à compter du 7 février. Je me tourne une nouvelle fois vers Clément, que je sais comme moi grand aficionado de Dupieux, période française en premier lieu, mais que je crois être un peu déçu par celui-ci.
Tout à fait. Ce que j'adore dans le cinéma français de Dupieux, donc depuis... Je pense qu'on peut inclure réalité malgré tout dans sa période, son premier film,
oui,
sa période française.
Oui, c'est sans doute un film de transition, notamment en important un certain nombre d'éléments de casting, mais son premier film français, authentiquement français, étant Au Poste en termes de production.
Moi, ce que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est de dénoter ou de détonner dans le sens de pas être dans le ton sur ton. C'est de faire de détraquer de l'intérieur les mécanismes de représentation d'un certain cinéma français. Dans Au Poste, c'est la confrontation, le film policier, le film de garde à vue, et de le détraquer de l'intérieur, de le faire pourrir de l'intérieur tout en gardant le vernis. Là, le souci pour moi avec Dali, c'est que ça fait ton sur ton. C'est que il n'arrive pas vraiment à s'affranchir d'une représentation un peu éculée, mais dont Dali était d'ailleurs le représentant du surréalisme, dans une marche, d'un côté mercantile, une marchandisation du surréalisme, et en voulant faire ce portrait impossible, ça devient le portrait impossible d'un film impossible, en tout cas presque d'un ready-made de Dupieux. En fait. Là, alors que
qui met en scène ou qui se repose notamment sur le récit d'une interview impossible d'ailleurs.
Oui, c'est ça, exactement. Et donc,
qui est menée par Anaïs de Moustier, j'ai oublié de la citer, voilà, qui est au casting du film.
Pour moi, enfin, ça fait un peu le film algorithmique de Dupieux, quoi. C'est si une intelligence artificielle, on lui demande de faire un film de Dupieux, ça ferait ça. Alors qu'un film comme Incroyable mais vrai, c'est toujours en train de se reconstruire, toujours une redéfinition des termes du contrat qui est passé avec le spectateur et même à l'intérieur du film. Le souci donc de Dali, déjà, c'est de faire confiance à un humour qui n'est pas langagier. Je suis vraiment en face d'une personne avec qui je cite à peu près une citation de Dupieux dans la vie quotidienne depuis Le Dain.
Depuis le fameux Sabut.
Depuis sa butte.
Et un style de malade.
Et style de malade qui sont entrés dans notre langage commun. Là, ça manque, évidemment. C'est un humour qui revient peut-être plus à l'humour du No Reason qu'il y avait dans la période américaine. Et l'autre problème étant l'incarnation. Donc, on l'a dit, c'est une interview impossible. Et en plus, avec un personnage labile qui est interprété par un Dali qui change tout le temps. Et on en parle vraiment beaucoup entre nous. C'est mettre ses acteurs sur une ligne de départ, mais vraiment, c'est le lièvre et la tortue, quoi. Personne n'est au même niveau. C'est-à-dire que là où
on voit bien que le film, en termes de montage, probablement, c'était peut-être vrai au moment de l'écriture du tournage, mais en termes de montage, il en tire des leçons. C'est-à-dire que, de toute évidence, film comprend que Baird et Cohen sont au premier plan et qu'ils doivent y rester.
Ah oui, c'est vraiment... là, c'est Dupieux laborantin qui voit les précipités qui fonctionnent ou vraiment qui meurent d'un coup, quoi. Donc ça amène un déséquilibre, une vraie dissymétrie. Le film est presque un peu long, alors qui fait peut-être quoi, 1h20, grand maximum. Pour moi, c'est le premier film vraiment raté récemment de Dupieux. Et au contraire, ça montre pas du tout, par contre, un peu optimiste, ça montre pas du tout la fin de sa recette. Ou de sa carte, si on est auprès de la critique, si on veut être un peu méchant. Ça montre, au contraire, qu'il doit continuer d'être un artiste de pastiche ultra sérieux, mais de pastiche de formes déjà connues, de dévoiement de formes connues, plutôt que de vouloir s'agripper forcément à un héritage dont, en fait, auquel il appartient pas vraiment. Son héritage, c'est les années 80, c'est pas le surréalisme.
Bah, du coup, il y a un...
Et c'est surtout pas le cinéma espagnol.
Si tu m'entends bien, Thomas ? Oui, nous avons eu une conversation plus ou moins animée il y a peu sur le cinéma espagnol, mais il y a quelque chose de l'ordre des années 70-80 ouais. qui fait retour dans ce film-là. Enfin, mais tout pour du moi, moins, c'est, me c'est semblait-il, ça. Parce que c'est pas le Dali de la grande période du surréalisme que Dupieux met en scène, c'est plutôt le Dali des variétés et des chocolats en vin. C'est le Dali, c'est oui, l'imagerie médiatique de c'est Dali le,
c'est
qui
le
est
Dali,
en scène.
C'est le Dali publiciste.
C'est le Dali pubard, oui.
Publiciste, ouais.
Oui.
Mais enfin, si c'était ça le sujet, il n'y aurait pas besoin d'occuper tout le terrain avec cette histoire de rêve enchâssé dans un rêve, etc., qui n'a rien à voir avec
c'est
ça.
C'est-à-dire que Dupieux, c'est quand même
c'est l'essentiel du film, c'est ça. C'est une espèce de concept de qui est vraiment une blague, c'est une blague relou pour moi, qui dure
mais qui est la blague,
40 minutes.
Qui est la blague relou qui est la blague relou de l'écriture automatique du surréalisme. Alors Dupieux, c'est un mec sobre. Dupieux, c'est un mec sobre qui filme des cauchemars. Là, vouloir recopier les procédés d'écriture automatique, de rêves enchâssés dans les rêves,
mais
c'était brillant dans les
années.
Il y avait
déjà ça dans réalité.
Il y avait ça. Absolument, il y avait ça dans réalité. On peut envisager qu'il y avait ça aussi un petit peu d'une certaine façon dans Au Poste. Enfin, c'est un procédé dont il fait usage depuis.
Mais avec
longtemps.
Un ancrage série B dans réalité. Ouais. Un ancrage cassette maudite qui était plus du cinéma d'exploitation, quoi.
Nicolas, un mot.
Non, moi, c'est vraiment Dupieux. C'est toujours le mélange de l'art contemporain et du spectacle de variété, quoi, de cabaret. Et donc, moi, le côté art contemporain ne m'intéresse pas une seconde, jamais, hein, dans aucun de ses films. Enfin, je lui accorde aucune crédibilité là-dessus, sur d'avoir une espèce de profondeur, machin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le show télé avec des acteurs connus qui font des blagues et que je peut les reciter à la récré avec Clément, quoi.
C'est ça.
Et donc ça, il y en a une dans chaque film.
C'est le palmarès.
Ce qui est quand même un talent hein, d'arriver à faire ça. Moi, je trouve que c'est une réussite d'avoir toujours la bonne idée. C'était le personnage de Moustier dans Au Poste, moi, que j'aime film, j'aime pas du tout, mais ça me fait rire et j'aime bien en reparler. Le Dain, c'est vraiment le mieux.
Chose
même,
qu'il restait d'ailleurs dans le C'est pour ça.
C'est pour ça, voilà. C'est le taureau là de oui, Mandibule, on aime bien. Là, il n'y a pas de truc comme ça. Je trouve que le film finalement se prend un peu trop au sérieux. Et quand même, bon, je pourrais me refaire un petit extrait de Edouard Baird qui fait Dali avec plaisir. Quoi. Il y a,
ouais,
y a quand
ouais,
même.
C'est vraiment.
Très bien, Dali de Quentin Dupieux, c'est donc en salle. À découvrir
tu
à partir
pas t'as pas fait l'accent,
du 7 février, non.
Privé, tu le fais beaucoup, donc...
J'ai un petit peu honte publiquement et quand je suis sobre, car il est que je regarde... Il est 11h02, il est encore un petit peu tôt pour le ballon. Je vous propose qu'on s'attaque à un autre gros morceau avant de faire une dernière pause musicale et d'en venir au dernier film de notre table ronde et au coup de cœur de nos rédacteurs. Cette fois, Francis va à nouveau pouvoir se joindre à nous. Vous le savez peut-être, Bertrand Bonello est l'un des cinéastes fétiches de la rédaction des Fiches du Cinéma. En 2015, son Saint-Laurent, avec le regretté Gaspard Ulliel, faisait d'ailleurs la couverture de l'annuel du cinéma, dont l'édition 2024, je vous le signale, est d'ores et déjà disponible à la commande sur notre site fichesducinema.com. C'était l'instant promotionnel. Et longtemps, à la rédaction, nous avons travaillé sous une affiche grand format de La Guerre, son très beau quatrième long métrage. Depuis, il faut bien l'avouer, c'est à une forme de désamour progressif qu'ont donné lieu ces derniers films, chez nous en tout cas, depuis Nocturama, disons, en 2016. De quoi est-il question ici ? Dans un avenir proche où l'intelligence artificielle tente à se substituer aux émotions humaines, une jeune femme, Gabrielle, explore ses vies antérieures. Le film se déroule donc sur trois temporalités, 1910, 2014 et 2044, un an après La Bête dans la jungle de Patrick Chia. Le film de Bonello s'envisage comme une nouvelle et très libre adaptation de l'œuvre de Henry James. Il était donc en sélection à la dernière Mostra de Venise. À l'affiche, l'inévitable Léa Seydoux ainsi que George MacKay, Léa Seydoux qui sera d'ailleurs à l'affiche du prochain film de Quentin Dupieux, mettant en scène un tournage de cinéma, vous voyez, le cinéma français,
de rigidité
de recyclage. Et c'est à découvrir en salle à compter du 7 février.
Non, j'attends quand même.
Il y aura Louis Garrel.
Alors, il y aura Louis Garrel, absolument. Non, non, mais c'est vrai, c'est pas une. Voilà. Alors, Lynchien, Cronenbergien, Glaserien, nous parlions tout à l'heure, je vous le rappelle, de la zone d'intérêt depuis sa présentation à Cannes, à la quinzaine des cinéastes. Les qualificatifs ne manquent pas dans la presse pour s'efforcer de circonscrire le projet de Bonello. Alors, messieurs, le cinéma du cinéaste, le cinéma de Bonello, est-il décidément en crise ou montre-t-il des signes de convalescence ? Francis.
C'est moi qui ouvre le bal, d'accord.
Absolument.
Bon, alors, ma première impression, en voyant le film, c'est que je me suis dit que j'avais l'impression d'être face à un autoportrait de l'artiste. Je m'explique, donc, d'un cinéaste cérébral qui était en proie à l'inquiétude de perdre sa capacité à s'émouvoir. Et pour moi, le film est là-dedans. C'est-à-dire que j'ai un Bertrand Bonello qui est un intellectuel, hein, on va pas s'en cacher, qui aime à complexifier ses récits avec des structures narratives, alors soit qui vont être plutôt éclatées, moi je pense à Zombie Child ou Elliptique comme Saint-Laurent, ou alors parfois les épurer au maximum, comme le pornographe, tout en même temps en plongeant d'une manière charnelle tous ces personnages dans des univers présents ou passés où les corps des individus sont un petit peu au centre des préoccupations. Et donc, évidemment, ça va des prostituées de la Polonide à Saint-Laurent, couturier, soucieux de l'élégance et du corps des femmes, ou aux demoiselles de la Légion d'honneur envoûtées par le vaudou. Donc ça, c'est toujours Zombie Child. Et puis finalement, on est comme ça dans une filmographie qui serait entre le viscéral et le mécanique. Alors là, bah, tu parlais de Cronenberg, évidemment, à ce moment-là, on se dit, bah oui, c'est Crash, c'est Les Crimes du Futur. Tiens, il y a Léa Seydoux en plus dedans. Enfin, toutes ces choses-là. Et puis finalement, pris entre ces deux pôles, le seul moment où les êtres exultent dans les films de Bonello, pratiquement, c'est dans les moments de danse, mais surtout dans des moments de danse solitaire. C'est-à-dire où il n'y a pas ce contact à l'autre, ce risque d'une altérité, ce risque de la découverte du corps de l'autre et de son propre corps. Donc évidemment, il y a Jérémy Régnier dans Le Pornographe, où il y a Emeline Vellade dans Saint-Laurent, et que là, du coup, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que dans ce film-là, le personnage principal, donc le personnage de Léa Seydoux, elle reste, quand il y a beaucoup de scènes en nightclub dans le film, reste à l'écart. Donc parce que peut-être elle est dans cette recherche de ses émotions intimes et qu'elle ne trouve pas vraiment. Et d'ailleurs, alors dans ce portrait de l'artiste, finalement, qui mieux que Léa Seydoux pouvait l'incarner, puisqu'elle est elle-même comme ça, cette espèce de femme écartelée entre son icône, son statut d'icône sur papier glacé de la pub, donc Vuitton, et puis c'est une comédienne qui brûle ardemment dans un certain nombre de films, que ce soit chez Kechiche ou chez Desplechin. Mais une fois que j'ai dit tout ça, en fait, moi, par rapport à ce film-là, puisque je parlais des structures, de la complexification des structures, je trouve que le problème du film, en fait, c'est sa structure narrative. Et ça m'arrive rarement, mais pour une fois, je trouve que 2h26, c'est beaucoup trop long. Et pourquoi ? Parce que j'ai l'impression, en fait, que le film se joue deux fois. Tu disais, il y a différentes époques, il y a 1910 et puis 2014. Et autant je trouve que la partie sur le début du XXe siècle à Paris, entre la crue des eaux de la Seine, l'usine de poupées, et moi je dirais inventive, assez brillante et captivante, autant, alors je trouve que la partie californienne avec Top Model, Serial Killer en devenir, Nightclub de nouveau, et puis réseaux sociaux, est juste une redite, mais assez cliché, assez vue et revue. Et que du coup, le film est complètement déséquilibré entre un certain envoûtement qu'on peut avoir au début et une espèce de platitude où finalement les éléments de signification qui vont résonner d'une époque à l'autre, un pigeon, une voyante, une poupée aussi évidemment, en fait paraissent très explicatifs dans le fond et puis finalement peu inspirés dans la forme. Donc moi je trouve que c'est vraiment un film en demi-teinte, même si Bonello me semble un cinéaste qu'il faut continuer à suivre parce qu'il est un cinéaste intéressant. Mais moi je préfère finalement des films mineurs que peut-être des gens aiment moins, mais moi Zombie Child, je ne pensais pas que c'était un film raté de Bonello, mais c'est peut-être un film mineur.
Nicolas, membre du fan club officiel de Bertrand Bonello, mais qui ne remet plus la main sur sa carte.
C'est un peu ça.
Quoique déçu.
Bah oui, oui, du coup, c'est un film sur lequel je ne peux pas avoir un point de vue très, très objectif. C'est-à-dire que je pense que si on le regarde à froid, on peut dire il y a ça qui est bien, ça qui est moins bien, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres pas, c'est intéressant. Il y a des idées, effectivement, il y a des, sans doute des idées qui sont intéressantes. Moi, ce que je vois et que j'ai du mal à dépasser, c'est le fait que ça ne me fait rien, mais ça ne me fait rien du tout, ce film. Et donc, c'est très troublant, parce que c'est vraiment... c'est un Bonello, c'est un cinéaste voilà, qui a beaucoup compté pour moi. C'est un cinéaste avec lequel je me sentais en connivence, avec lequel j'ai l'impression de ne plus rien comprendre à ce qu'il fait. C'est un voilà, un cinéaste que je trouvais important, qui est en train de me devenir indifférent. C'est assez troublant. La raison à ça, c'est pour moi, alors j'aimerais, je trouve intéressante l'idée de Francis de dire que c'est un portrait de l'artiste qui craint de perdre ses émotions. Alors il a raison de le craindre, et j'aimerais le voir comme ça. Mais pour moi, le problème, c'est que ça n'est pas un film. J'arrive pas à le voir comme un film personnel. À le sentir en tout cas comme un film personnel. Moi, ce que j'aimais vraiment particulièrement, c'est tout premier film. C'est quelque chose d'organique un peu, si j'en suis pas dingue, et surtout le pornographe Tiresia de la guerre, qui sont des films pour moi dans lesquels, qui étaient loin d'être parfaits, mais qui étaient des films dans lesquels il y avait quelque chose de vital. À mon avis, il y avait une urgence à les faire, une implication dans le fait de les faire. Ça posait des questions qui se posaient, ça cherchait des trucs. Et ça produisait quelque chose qui le rendait parfois fragile, aussi vachement inspiré. C'était le film, de ce point de vue-là, moi je trouve extrêmement intense, stimulant intellectuellement, artistiquement, voilà. Mais le départ de ça, je pense que c'était des films personnels, c'était des films intimes. Et pour moi, dès la Polonide, ça n'existe plus. Même si c'est un film bien fait, c'est un film pas mal, mais pour moi, déjà, c'est un film assez inhabité. Saint-Laurent, c'est génial, c'est un peu une exception dans sa filmo. Et puis alors après, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, c'est cette suite de films qui font la double erreur d'être sur la jeunesse et de vouloir un peu parler de la jeunesse, voire à la place de la jeunesse, et qui d'être dans une poursuite effrénée de retrouver pour Bonello, de faire le film de série B, le film de ses fondements. C'est-à-dire Argento, Cronenberg, Carpenter, quoi. Et ça ne marche pas. Alors, on en avait parlé avec Clément, tu disais à très juste titre que valait mieux faire des films d'auteur avec ce background, des films d'auteur français avec un background vidéoclub, etc., que l'inverse. Et c'est exactement à ça qu'il se heurte, c'est-à-dire que ça se sentait, enfin en termes d'horreur, il a jamais fait mieux que la scène de Crevaison des yeux dans Tiresia, qui est un film pasolinien, bressonien à mort, qui est pas du tout dans ce registre-là. Et donc là, pour moi, c'est un Bonello, c'est un cinéaste qui est plus dans ses pompes, quoi, qui est pas dans son âge. Et qui n'est pas dans son pays. Et bon, voilà.
Laisser à Clément.
Non, mais on a beaucoup parlé du film. Je l'ai vu avec Nicolas. Et moi aussi, c'est un cinéaste qui est devenu très important pour moi. J'ai rattrapé a posteriori, en fait, ses premiers films. Mais c'est vrai que ça fait mal d'assister à l'agonie d'un homme en or, hein, quand même. C'est quand même terrible, puisque plus on parle de la bête, plus ça me semble mauvais, quoi. C'est même pas un film, comme disait Nicolas, où à froid on peut dégager des pistes théoriques. Ne serait-ce que parce que Bonello ne veut pas qu'on en parle à froid, puisqu'il passe son temps à dire que maintenant il veut faire un cinéma viscéral, à la fois un peu premier degré, puissant.
Dans l'urgence.
Dans l'urgence, qui fait des références. Mais c'est pas dans l'urgence quand quand tu passes ton temps à faire des références au VHS que t'as vu, tu peux les revoir des dizaines de fois. Ça devient plus un produit urgent. C'était dans l'urgence de la copie. Donc, La Bête, donc c'est quand même trois, pour rappeler, c'est trois temporalités différentes. Une donc dans le Paris de la Belle Époque, enfin des années 20. Un 2014-2015, le début à la fois du mouvement MeToo, la montée des incels, l'avènement un peu des réseaux sociaux, et 2050. Donc c'est un film qui quand même passe du film d'époque à la science-fiction, avec un budget qu'on devine quand même moindre, puisque c'est une toute petite forme, et on pourrait penser qu'un cinéaste qui a fait des produits urgents comme Bonello pouvait réussir avec peu d'argent à justement habiter avec quelques produits, quelques inserts qui seraient des inserts purement dans l'émotion, à pallier le manque d'argent. Et là, en fait, le souci de ce manque d'émotion, c'est que tout a l'air complètement triste, complètement désaffecté, complètement vide. Comme, je ne sais pas si c'est un autoportrait d'artiste, en tout cas, ça m'a l'air effectivement d'un autoportrait d'homme qui aimerait bien comprendre la société dans laquelle on vit, parce qu'il se sent malgré tout encore y appartenir. Ça pourrait être un peu touchant, cette notion de l'artiste qui prend de l'âge et qui se rend compte que la jeunesse dont il a toujours un peu voulu parler avant n'est plus la sienne, et donc qu'il essaierait, en plus à partir d'une histoire où on va forcément dans les rêves de quelqu'un, récupérer les souvenirs d'enfance, les émotions, essayer de se reconnecter vraiment d'un point de vue de synapse à la jeunesse. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait montrer une incapacité à se mettre au niveau de la jeunesse. Le problème, c'est qu'il j'ai l'impression qu'il est persuadé qui sort de l'impasse artistique en allant vers la copie de la copie d'une idée de la jeunesse qu'il se fait. Donc, c'est vrai que ça fait un peu ton grand-oncle qui te dit quoi couper, quoi. T'as un peu... C'est rigolo, parce que ton...
Il y a tout un discours critique qui a été produit sur ce film, mais je pense que si... Bertrand, si tu nous écoutes, tu viens d'entendre quelque chose d'inédit.
Le problème, alors... On adore Bonello. Est-ce qu'il peut sortir de cet état de crise de son cinéma? Oui, mais il va falloir qu'il y ait un vrai bouleversement, parce que ça fait quand même trois films qui a une vraie décélération.
Merci à vous. Alors, quand est-ce que c'est en salle, ce film? C'est donc en salle à compter du 7 février. Je vous propose à présent que nous fassions une toute dernière pause musicale, après quoi nous aurons encore un film à évoquer, et puis nous passerons en revue les coups de cœur de nos rédacteurs. Une petite pause, et puis on se retrouve dans quelques instants.
La chronique bien-être de Nicolas. From you, seems you're a user too. Take those troubles, baby. Tell someone new. There's just something I should say before you do. We'll be right back.
those whispering oh so close.
De retour sur Radio Libertaire, vous écoutez toujours longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Fou au micro, en compagnie de Francis Gavel, Clément Deléchaud et Nicolas Marcadet, des fiches du cinéma pour cette table ronde consacrée à l'actualité des sorties en salle. À l'instant, nous écoutions A Bad Wind Blows Into My Heart, Part 3 de Bill Ryder Jones, autrefois membre de The Coral et qui signe avec les Shida son plus bel album solo. Un dernier film à évoquer avant d'en venir au coup de cœur de nos rédacteurs et au terme de cette émission, ça s'appelle Les Chambres Rouges de Pascal Plante, dont le précédent long métrage, Nadia Butterfly, avait attiré l'attention des fiches. Le film est en salle depuis le 17 janvier. En voici en quelques mots le sujet. Montréal, Kellyanne assiste au procès médiatique de Ludovic Chevalier, accusé d'un triple homicide avec violence sexuelle sur trois adolescentes, et d'avoir filmé ses meurtres pour les monétiser sur le dark web. En marge du procès, elle rencontre Clémentine, venue de loin pour soutenir Chevalier, qu'elle croit innocent. Valentine Vera, que nous saluons, écrit dans les fiches du cinéma que le film, énigmatique et froid à l'image de son héroïne, paraît tour à tour fascinant et esthétisant, mais que sa maîtrise formelle ne laisse pas indifférent. Au casting, on retrouve donc Juliette Garrett et Laurie Babin. Nicolas, en quelques mots, Les Chambres Rouges.
Moi, j'avais pas vu son précédent. J'ai vu ça un peu. J'ai vu ça un petit peu comme un film s'apparentant à ce genre classique de la carte de visite du film carte de visite pour Hollywood, qui montre une certaine dextérité dans les figures imposées et les figures libres, qui essaie d'être voilà à la fois classique avec une originalité un peu contemporaine, et que ça marche pas mal, ça fonctionne pas mal, mais ça ne me captive pas, et surtout je trouve ça débouche sur rien, c'est-à-dire que c'est un truc qui monte en neige qui sur des pistes qui aboutissent à finalement que dalle. Bon, voilà.
On va donc se tourner vers Francis.
Qui va essayer donc du coup de donner un peu
de souffle
au film de Pascal Plante. Donc moi j'avais vu le précédent, Nadia Butterfly, qui est un film d'ailleurs qu'on pourrait programmer cette année, puisque c'est quand même l'histoire d'une nageuse qui, au cours des Jeux Olympiques de Tokyo, décide d'arrêter. Et donc c'est un film qui s'inscrit complètement dans l'actualité qui va être la nôtre. Donc c'est vrai que j'étais curieux. Moi j'avais trouvé que le précédent était un portrait féminin intéressant, et donc je m'étais dit soyons un petit peu curieux aussi de son nouveau film. Alors effectivement, après, je peux être d'accord sur le côté carte de vie, sur la maîtrise qui est la sienne. J'espère juste qu'il va pas devenir Denis Villeneuve, parce qu'un 32 août sur Terre, c'est extraordinaire. Et puis après, malheureusement, c'était moins bien, à mon sens. Donc, en fait, quand je vois le film qui est quand même entièrement centré donc sur le personnage féminin, sur cette jeune femme qui est fascinée, a priori, par ce serial killer dont c'est le procès, je me suis dit à un moment, j'ai presque l'impression d'un portrait d'un American Psycho au féminin, mais un American Psycho qui ne commet pas de crime, à la différence de celui de Bretton Ellis. Et que donc on est face comme ça à un top modèle effroyablement belle, qui meurtrit son corps dans le sport, dans sa pratique professionnelle, et qui donc est fascinée par un homme qui va avoir, lui, justement, abusé dans une démarche mercantile et sadique de corps de jeune fille. Donc il y a comme ça cette espèce de décalage entre une plasticité très... très épuré, très très glacial, et puis un acte d'une monstruosité. Bah, là, je vais employer le mot quand même, charnel total, quoi. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il y a alors là un twist final que je vais pas révéler parce que il est un petit peu saisissant au moment où il se produit, mais qui serait comme une rédemption, je dirais. Après, ce qui est étonnant, moi, je trouve par rapport au film, finalement, c'est que la fascination. Et peut-être que c'est l'endroit où le film est peut-être plus intéressant que cette vision cinglante de Nicolas. oui, mais c'est pas.
Je sais que c'est moi qui ai demandé à Nicolas d'être rapide. Je le sais. Je le sais volontiers, d'Isère.
Puis il a vu qu'une minute trente.
et qu'il y a cette espèce de fascination qui se produit chez le spectateur, je crois, par rapport au personnage féminin. Et que c'est un truc un peu ambigu, parce que c'est à la fois une fascination pour cette espèce de personnage hors norme et très froid qu'elle représente, et en même temps d'une beauté absolue. Alors je sais pas, c'est peut-être une vision pourrie de masculine, j'en sais rien, mais qui est une espèce, finalement, à un moment, une espèce de fascination qui est celle de la comédienne qu'on a en face de soi, plus finalement peut-être que du personnage qu'elle interprète, et que il y a une espèce de translation qui se fait finalement entre le serial killer du film, le personnage féminin et l'actrice qui l'incarne, et le spectateur qui au bout de cette espèce de triangulation entre les trois. Et peut-être c'est l'endroit où le film finalement m'accroche un petit peu dans ce qui procure, moi, ou ce qui provoque, moi, dans sa propre réception. Et donc, ce questionnement multiple sur la fascination. La fascination pour un serial killer et la fascination pour le cinéma aussi. Voilà.
Les Chambres Rouges de Pascal Planck, c'est donc d'ores et déjà en salle. Nous en venons à mon moment préféré de l'émission, celui des coups de cœur des rédacteurs. Je me tourne donc vers vous. Y a-t-il un enthousiasme que vous souhaiteriez partager avec nos auditrices et auditeurs? Un livre, un album, une expo, un candidat au titre à l'US Open, un cocktail alcool anxiolytique? Et pourquoi pas un film, puisque vous aimez tant ça? C'est à vous, Clément.
Alors, j'ai pas trop réfléchi, donc peut-être je vais. Attends, non, j'en ai un. Bon, évidemment, la finale de l'Open d'Australie demain. Yannick Sinner, Daniel Medvedev.
De l'Open d'Australie, je mentionnais l'US Open.
Oui, voilà.
Je suis perdu dans les saisons.
T'es pour René Lacoste, je crois. Non, mais la finale de l'Open d'Australie, puis après, je réfléchis à quelque chose de culturel. Mais bon, si personne, en général, n'a rien à faire le dimanche matin, donc c'est la meilleure chose à faire ce dimanche matin. Et je laisse la parole à mes collègues, je reviendrai après pour un truc plus intelligent, peut-être.
Moi, ce serait la rétro Claude Miller à la Cinémathèque, cinéaste qui m'est cher et qui est, que je trouve très sous-estimé, sous-aimé. C'est un cinéaste qui a été un peu assimilé à une néo-qualité française comme Tavernier, parce que c'est des gens qui avaient un peu trahi d'une certaine manière, parce que c'est d'anciens collaborateurs des cinéastes de la Nouvelle Vague. Le Tavernier a été l'attaché de presse de Godard, Miller a été son assistant, l'assistant de Truffaut, puis après ils ont travaillé avec les ennemis historiques de la Nouvelle Vague, Orange et Bost pour Tavernier et Michel Audiard pour Miller. Je sais pas, c'est un truc qui les a poursuivis un peu comme ça. Le cinéaste plan-plan. Tavernier a été un peu réévalué et Miller pas du tout, ce qui me semble très injuste parce qu'à mon avis c'est un cinéaste infiniment supérieur et beaucoup plus touchant et intéressant. On l'a pas mal assimilé à un cinéma de l'enfance, un cinéaste qui saurait filmer à hauteur d'enfant, etc. Comme Truffaut, comme Doyon. Ça me paraît un peu réducteur en fait. Il fait pas des films sur le quotidien des enfants. La réalité, c'est toujours le sujet de Miller. C'est un sujet que je trouve beaucoup plus passionnant. C'est le monde des adultes regardé par un regard d'enfant. Et donc, c'est soit ces personnages, c'est soit des enfants qui sont des préadolescents, des adolescents qui sont précipités trop rapidement dans le monde des adultes. Donc ça, c'est la compagnatrice, la classe de neige, etc. Bon, les frontés, évidemment, qui est encore un peu plus quotidien. Soit c'est des personnages d'adultes qui sont des enfants pas terminés, qui sont des enfants prolongés. Donc c'est Depardieu dans Dis-tu que je l'aime, c'est Serrault dans Garde à vue, c'est etc. Nicole Garcia dans Betty Fischer. Mais c'est toujours ça, cette espèce de regard sur le monde adulte comme terrain hostile et difficilement habitable, sujet fort intéressant et fort bien traité par Miller, qui est aussi un cinéaste qui, à mon avis, a un style aussi identifiable et qui mérite d'être découvert. Voilà.
Ce sera donc à la Cinémathèque. Merci Nicolas. Alors, Clément.
Oui, 7, je crois.
Je sais. C'est un livre, Franck Autoportrait Imaginaire, aux éditions Marabout, de Gilles Juan. C'est une autobiographie fictive de Franck Ribéry. Le journaliste écrivain Gilles Juan, qui n'a pas eu l'autorisation évidemment de faire la biographie autorisée de Ribéry, qui s'est autorisé à travers ce qu'on sait évidemment de soit de son enfance, ce qu'il a raconté, ou de sa vie, ou de sa page Wikipédia, et de tourner autour, d'utiliser un peu le vrai comme tuteur pour essayer de construire une histoire vraisemblable de Ribéry. C'est à la fois très beau sur sa jeunesse, sur son enfance, aller un peu au-delà des instrumentalisations qui ont pu être faites, et aussi de faire d'essayer pas forcément de rédimer, mais de rendre la personnalité de Ribéry sur le terrain du foot, puisque il a quand même joué dans une équipe de France où il y a eu un ministère de l'identité nationale.
Absolument.
Où on demandait autre chose aux footballeurs que de jouer au foot, mais de chanter la Marseillaise et de représenter exactement ce qui devait être, soi-disant, l'assimilation et la société française de l'époque. Donc c'est un très bon livre que je recommande. Donc Franck, Autoportrait imaginaire.
Merci Clément. Chers auditrices, chers auditeurs, merci de votre attention. On se retrouve donc le mois prochain. D'ici là, n'oubliez pas de haïr le gouvernement. Mais pour cela, je crois pouvoir compter sur vous. Clément, Nicolas, merci et à très bientôt, je l'espère, sur ces ondes. Et Francis, je te rends l'antenne.
Eh bien, merci à vous trois pour ce panorama. Alors, moi, j'avais un coup de cœur pour une fois, ça arrive pratiquement jamais, dans le sens où je me dis, bon, il y a déjà l'album du mois, c'est un coup de cœur. Mais finalement, j'ai réussi à un coup de cœur qui va mêler les deux grandes directions de l'émission, la musique et le cinéma. Parce que, alors, figurez-vous que dans la ville où j'habite, se déroule un festival qui s'appelle le Festival du film musical. Il a lieu en ce moment même, donc au cinéma de Suresnes, le Capitole. Voilà, vous pouvez aller sur le site du cinéma Le Capitole.
Gaffe, t'as dit, on sait où t'habites maintenant.
Mais on ne sait pas dans quelle rue encore. Je l'ai pas encore dit. Et donc pourquoi ? Parce que demain, il y a un film qui a été présenté à Cannes. Alors je pense que là, je sais que vous êtes trois Cannois de conviction et aussi professionnels. Je pense que vous ne l'avez pas vu quand il a été présenté la première fois à l'époque de sa sortie, parce que il était en hors compétition et c'était en 1978. Par contre, peut-être l'avez-vous vu dans la section patrimoniale de Cannes, qui est Cannes Classique, où il a été présenté en copie restaurée en 2022. Et ce film, on a beaucoup parlé de son réalisateur cette année encore, puisqu'il s'agit d'un film de Martin Scorsese, donc pour Killer of the Flower Moon. Et dans ce film, Martin Scorsese, comme à son habitude, collabore avec un musicien dont ça a été l'ultime BO, qui est Robbie Robertson, guitariste bien connu d'un groupe qui s'appelait The Band. Et The Band est un groupe qui a surtout été connu pour une chose, même s'ils ont accompagné des tas de noms de la pop, de la folk ou du rock, a été connu pour être le groupe accompagnateur de Bob Dylan quand il passe à l'électrique. Et donc, il y a un concert qui a été filmé en 1976, qui est l'ultime concert du groupe, qui s'appelle The Last Waltz. Et donc, le film que je vous... Évidemment que je vous conseille d'aller voir demain, donc à 18h50, demain dimanche, à Suresnes, c'est The Last Waltz, donc 2 heures de ce concert du band, concert où évidemment on retrouve Bob Dylan qui vient faire un petit peu un adieu aux musiciens qui l'ont accompagné, mais plein d'autres gens. Il y a Johnny Mitchell, il y a Neil Young, il y a Van Morrison, il y a Emilio Harris. Enfin, c'est un casting de l'époque très impressionnant. Et c'est un film qui est absolument, je l'ai encore jamais vu, donc moi ça va être une vraie découverte. Par contre, je connais par cœur la BO, puisqu'elle existe, elle existait à l'époque en vinyle, maintenant elle est en CD. Et alors, comme j'aime à raconter des histoires personnelles, c'est un disque que j'écoutais très fort dans ma chambre, fenêtre ouverte, et une fois mes parents m'ont dit, on l'entend depuis en bas, depuis le parking, rendez-vous compte. Voilà, donc ce film, qui a été un film un peu curieux aussi, Bob Dylan y participe, mais ne voulait pas trop y participer par peur que The Last Waltz vienne faire de la concurrence au film qui est en train d'être tourné sur lui. Johnny Mitchell, qui chante avec Neil Young sur un titre, en fait chante depuis les coulisses parce qu'elle ne voulait pas apparaître avant sa propre apparition et que ça n'en diminue pas l'importance. Enfin, plein de choses. Levon Helm, le batteur du groupe, qui se disait « Mais Scorsese est ami avec Robbie Robertson et je ne veux pas que ce film donne la sensation que The Band est le groupe accompagnateur de Robbie Robertson. » Voilà, plein de choses qui, comme d'habitude, constitue la petite histoire du rock, mais qui constitue, je pense, déjà un grand moment.